À début de semaine, j'ai déjeuné avec des amis dans un bar à lait situé non loin d'ici. Un bar à lait est un restaurant qui a vu le jour sous le communisme. Il était difficile de se procurer de la viande et des produits laitiers sous le régime communiste. C'est pourquoi le gouvernement a ouvert ses bars à lait pour que les travailleurs puissent se nourrir à bon marché. Bien sûr, le communisme n'existe plus en Pologne, mais les bars à lait sont restés. C'est comme une cafétéria. Vous pouvez faire la queue et dire « Je veux un peu de cette viande, je veux un peu de ces pommes de terre, je veux ce légume. » Vous pouvez choisir ce que vous voulez, et cela sera mis dans votre assiette. Un peu de ceci, un peu de cela, tout ce que vous voulez.
Lorsque nous parlons de croyances, nous pensons généralement que chaque personne a un système de croyances unique, une seule façon de voir le monde.
Mais en général, beaucoup de gens n'ont pas un seul système de croyances. Beaucoup de gens n'ont pas une seule façon de voir le monde. Au lieu de cela, c'est comme si vous remplissiez votre assiette au milk bar.
Ils prennent un peu de cette religion, puis un peu de cette vision du monde, un peu de cet autre enseignement. Il se peut qu'ils s'inspirent un peu du christianisme lorsqu'ils désirent une guérison physique. Ainsi, lorsque vous regardez l'assiette de leurs croyances, c'est un mélange de croyances, de religion et de vision du monde, un peu de ceci, un peu de cela.
Ce matin, nous allons examiner un moment où Israël est tombé dans le même piège.
Au lieu de servir Yahvé, au lieu de servir le Seigneur, ils ont mélangé d'autres systèmes de croyances et d'autres visions du monde. Mais au lieu de lire cette histoire et de penser « comment cela a-t-il pu se produire ?», je vous encourage à réfléchir à ce que vous avez dans votre assiette. Dépendez-vous de Dieu pour tout, ou dépendez-vous de quelque chose d'autre pour cette partie de votre vie ? Croyez-vous en quelque chose d'autre pour cette partie de votre vie ?
C'est ce que j'aimerais que nous examinions ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter à l'Épître aux Rois, chapitre 18. Il y a quelques semaines, nous avons entamé une série de sermons sur le prophète Élie de l'Ancien Testament. Sa vie n'est documentée que dans 5 chapitres, et pourtant, il est souvent mentionné dans le Nouveau Testament. Nous avons examiné le livre des Rois, 1 roi 17.
Lorsque Dieu a dit à Élie d'annoncer au roi Achab qu'il n'y aurait pas de pluie pendant longtemps en Israël.
Nous avons ensuite vu comment Dieu a pourvu aux besoins d'Élie dans un ravin et par l'intermédiaire d'une veuve qui n'avait pas grand-chose.
Cela nous amène au chapitre 18.
Après bien des jours, la parole du Seigneur fut adressée à Élie, la troisième année, en ces termes. « Va te montrer à Achab, et je ferai tomber la pluie sur la terre. »
2. Élie alla se montrer à Achab. La famine était grave en Samarie.
3 ans se sont écoulés depuis qu'Élie a annoncé au roi Achab qu'il y aurait une grande sécheresse dans le pays. Pourquoi Dieu a-t-il arrêté la pluie à cet endroit? Eh bien, la nation d'Israël, sous la direction du roi Achab, adorait d'autres idoles, en particulier l'idole Baal. Cette idole était censée avoir le pouvoir et l'autorité sur la pluie. S'il n'y avait pas de pluie, cela signifiait que Baal n'était pas avec eux.
Dieu a donc utilisé Élie et la sécheresse pour s'attaquer directement à leur fausse idole.
Mais après 3 ans, la sécheresse prendra fin, ce qui est une bonne chose, car le verset 2 dit que le manque de pluie a entraîné une grave famine dans le pays. Dieu dit donc à Élie d'aller voir le roi.
3. Achab appela Abdias, qui était à la tête de la maison.
Obadia craignait beaucoup le Seigneur.
4. Et lorsque Jézabel fit périr les prophètes du Seigneur, Obadia prit 100 prophètes, les cacha par 50 dans une caverne et les nourrit de pain et d'eau. L'histoire d'Élie s'interrompt un instant et nous rencontrons un homme nommé Abdias.
Obadia travaillait pour le roi Achab, mais il n'était pas méchant comme le roi Achab.
Le 3e verset dit qu'Abdias craignait le Seigneur. Et lorsque la femme du roi, Jézabel, a essayé de se débarrasser de certains des prophètes du Seigneur, Abdias a pris certains d'entre eux, les a aidés à se cacher dans une grotte et leur a apporté du pain et de l'eau.
Et d'autres termes, Obadia était un homme bon travaillant pour un homme mauvais. Vous pouvez peut-être vous identifier à cela. Peut-être êtes-vous dans un environnement professionnel ou scolaire,
dans lequel vous essayez de travailler dur avec intégrité, mais les personnes au-dessus de vous n'ont pas les mêmes valeurs, ou ont peut-être des valeurs qui vont à l'encontre de ce que vous croyez.
Certains d'entre vous ont le luxe de pouvoir démissionner et de trouver un autre emploi, et c'est peut-être ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais vous êtes peut-être dans la même situation qu'Abdias. Ce n'est pas comme si Obadiah pouvait quitter son travail pour le roi et trouver un emploi chez KFC.
Cela ne fonctionne pas comme ça dans un royaume. Abdias devait rester à son poste.
Mais Abdias a su tirer parti de sa situation pour faire le bien. Bien qu'il ait travaillé pour un mauvais roi, Abdias a craint le Seigneur et a pu sauver une centaine de vies.
C'est un rappel que, même si votre environnement est mauvais, Dieu peut se servir de vous pour faire la différence. Vous pouvez être une lumière dans un endroit sombre. Vous pouvez utiliser votre influence pour le bien.
Comme nous le voyons avec Obadiah, cela peut être risqué. Il faut de la foi, il faut du courage, mais le Seigneur est avec vous. Prenez un moment et pensez à une personne pour laquelle vous pouvez être une bénédiction dans votre environnement. Priez pour cette personne. Demandez à Dieu de vous donner l'occasion d'être une lumière pour cette personne. Dieu peut se servir de vous pour changer la vie de cette personne.
Sak Ashab Dia Abdias.
Parcourez le pays jusqu'à toutes les sources d'eau et jusqu'à toutes les vallées. Peut-être trouverons-nous de l'herbe et pourrons-nous sauver les chevaux et les mulets et ne pas perdre quelques bêtes. Peut-être trouverons-nous de l'herbe et pourrons-nous conserver vivants les chevaux et les mulets, et ne pas perdre une partie des bêtes. Achab partit seul dans une direction, et Abdias partit seul dans une autre direction.
La sécheresse s'aggrave. Le roi demande à Abdias d'aller chercher de la nourriture et de l'eau. Mais pour qui? Pour le peuple? Pour Israël? Non, pour ses animaux. Le roi est plus intéressé à sauver la vie de ses chevaux et de ses mules que celle de son peuple.
Obadiah a utilisé son influence pour sauver une centaine de vies. Le roi Achab ne s'intéresse qu'à sa propre survie et à celle de ses biens.
Le Seigneur était le roi d'Abdia. Le roi Achab était le roi du roi Achab. Il ne s'intéressait qu'à lui-même et non au peuple qu'il dirigeait.
Il n'y a de place que pour un seul roi dans votre cœur. Si vous êtes le roi, les résultats seront désastreux, comme nous le verrons avec le roi Achab. Mais si le Seigneur est le roi de votre cœur, il y a la paix, il y a l'espoir, il y a la vie. Dieu se soucie de son peuple. Il est un roi digne, et vous pouvez lui faire confiance.
7. Comme Abdias était en chemin, voici Élie vint au-devant de lui.
Obadiah le reconnut, tomba sur sa face et dit, « C'est toi, mon Seigneur Élie ?»
8.
Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Obadiah est en route pour trouver de la nourriture et de l'eau pour les chevaux du roi, et il rencontre Élie. Élie dit à Abdias de dire au roi Achab qu'il est prêt à le rencontrer. Cela semble être une demande simple, n'est-ce pas?
9. Il dit, « Comment ai-je péché, pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, afin qu'il me tue? »
Mais il ne s'agit pas d'une simple demande pour Abdias. Il pense que s'il dit au roi Achab qu'Élie veut le rencontrer, le roi voudra tuer Abdias. Pourquoi?
L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'y a point de nation ni de royaume où mon Seigneur n'ait envoyé pour te chercher. Et si l'on disait, il n'est pas ici, il faisait prêter serment au royaume ou à la nation qu'il ne t'avait pas trouvé.
Depuis qu'Élie a annoncé au roi Achab, 3 ans plus tôt, que la pluie allait cesser, le roi Achab chasse Élie.
Mais où qu'ils aient cherché, ils n'ont pas trouvé Élie. Nous savons où était Élie. D'abord au ravin, puis chez la veuve. Le roi avait donc chassé Élie.
Élève, et maintenant tu dis, va, dis à ton seigneur, voici Élie. 12. Et quand je me serai éloigné de toi, l'Esprit de l'Éternel te portera je ne sais où. Ainsi, quand je viendrai le dire à Achab et qu'il ne te trouvera pas, il me tuera, bien que moi, ton serviteur, je craigne l'Éternel depuis ma jeunesse. 13. N'a-t-on pas raconté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? Comment j'ai caché dans une caverne une centaine de prophètes de l'Éternel par 50, et comment je les ai nourris de pain et d'eau?
14 Et maintenant tu dis, « Va dire à ton Seigneur, voici Élie, et il me tuera. » Obadiah dit, « Que se passera-t-il si je dis au roi, que tu es ici, mais que lorsqu'il arrive, l'Esprit de Dieu t'a déjà emmené ailleurs. Dans ce cas, ne me tuera-t-il pas ?» Abdias dit,
« Comment se sent Obadiah ?»
Il a peur. Il serait facile de dire, « Obadiah, n'aie pas peur, fais confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur. » Et c'est vrai. Mais si vous étiez Obadiah, n'auriez-vous pas peur vous aussi? N'est-ce pas une réaction naturelle?
Obadiah se défend auprès d'Élie. Il dit,
« Ce n'est pas parce que je ne crains pas le Seigneur. J'aime Dieu depuis mon enfance.
N'as-tu pas entendu l'histoire de la grotte où j'ai caché les prophètes? C'est comme s'il disait à Élie, « Écoutez,
j'ai fait des choses courageuses pour le Seigneur dans le passé, mais si je fais cela, le roi va me tuer. »
Obadiah réfléchit. Il peut être facile de lire cette histoire et de critiquer Obadiah parce qu'il a peur. C'est facile pour nous de le faire ici, dans ce bel espace avec des chaises et la liberté religieuse dont nous jouissons aujourd'hui.
Mais, si vous voulez condamner Obadiah, je vous demande seulement si vous avez déjà risqué votre vie pour sauver celle de 100 personnes pour le Seigneur.
Obadiah avait peur.
Mais nous voyons dans les versets suivants que cela ne l'a pas empêché d'obéir.
Finck Élie dit,
« L'Éternel des armées, devant lequel je me tiens, est vivant. Je me montrerai aujourd'hui à lui. » Abdias alla au-devant d'Achab et le lui annonça. Achab alla au-devant d'Élie.
Obadiah craint pour sa vie, mais il a finalement fait ce qu'Élie lui demandait. Il a surmonté sa peur et fait confiance au Seigneur. J'ai dit plus haut que nous lisons souvent le nom d'Élie dans le Nouveau Testament. Il est un exemple de foi et d'audace. Le Seigneur s'est servi de lui pour accomplir des choses puissantes. Que pouvons-nous donc apprendre d'Abdias?
Il n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament.
Tout le monde n'est pas Élie. Chaque personne a son rôle à jouer.
Abdias n'était pas Élie. Dieu avait un ministère différent pour Abdias, et c'est bien ainsi. Le ministère d'Élie n'était pas meilleur que celui d'Abdias. Chaque personne avait son rôle à jouer. Tout le monde ne sera pas un Élie, et c'est bien ainsi. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul, et c'est bien ainsi.
Je me souviens avoir suivi une formation missionnaire avant de venir en Pologne. L'idée de cette formation était que nous devions suivre le modèle de l'apôtre Paul. Lorsque Paul était missionnaire, il se rendait dans un nouvel endroit, fondait une église, puis se rendait dans un autre endroit, fondait une église, puis se rendait dans un autre endroit, fondait une église, et ainsi de suite. Paul était constamment en mouvement, et c'est donc ce modèle qui m'a été enseigné.
Et le modèle est bon. Il est biblique, il est vrai, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne suis pas l'apôtre Paul, et ce n'est pas grave. J'ai une famille, Paul n'en avait pas. J'ai dû apprendre une nouvelle langue, Paul ne l'a pas fait, et ce n'est pas grave.
Certaines personnes peuvent suivre l'exemple de Paul, et c'est très bien. Que Dieu les bénisse. Mais Paul n'est pas la seule personne dans la Bible. Élie n'est pas la seule personne dans la Bible. Je pense beaucoup à Épaphras, qui est mentionné dans le livre des Colossiens. Dieu a utilisé Épaphras pour aider à fonder l'église de Colosse, et pour autant que nous le sachions, il y est resté et a exercé son ministère auprès des gens qui s'y trouvaient. Il n'a pas voyagé de ville en ville comme Paul. Il est resté au même endroit. Et c'est bien ainsi. C'est une bonne chose. Je m'identifie davantage à Épaphras qu'à Paul.
Tout le monde ne sera pas comme Élie. Et c'est bien ainsi. Nous avons besoin de personnes comme Obadiah. Des gens qui travailleront dans les coulisses. Obadiah et Élie étaient tout aussi fidèles l'un que l'autre. Dieu les a simplement appelés à des tâches différentes.
La Bible compare l'Église au corps humain. Chaque partie du corps est importante. La main ne peut pas dire au pied « Je n'ai pas besoin de toi ». Le pied ne peut pas non plus dire à la main « On n'a pas besoin de toi ». Dieu dit que chaque membre du corps du Christ est important. N'essayez donc pas d'être une main si vous êtes un pied. N'essayez pas d'être un pied si vous êtes une main. Répondez à votre appel. Répondez à l'appel que Dieu a placé dans votre vie.
Passons maintenant à l'événement principal. Élie contre le roi Achab.
17. Achab, voyant Élie, lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Enfin, ils se rencontrent à nouveau. Quelle est la première chose qui sort de la bouche du roi Achab? Le blâme. Il accuse Élie d'être responsable de la sécheresse. Le roi ne comprend toujours pas, alors Élie lui explique.
Il répondit, « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais toi et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous avez suivi les Baals. Ce n'est pas la faute d'Élie s'il n'a pas plu. La faute en revient au roi qui a détourné Israël du Seigneur pour courir après les idoles.
Maintenant, envoyez-moi tout Israël et réunissez-moi au mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. »
20. Achab envoya tout le peuple d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel.
Élie propose une réunion au mont Carmel avec 450 prophètes de l'idole Baal et 400 prophètes d'Achéra. Les prophètes d'Achéra représentent la femme du roi Achab, Jézabel. Mais il semble qu'ils ne se présentent pas.
Élie représentera le Seigneur en tant que prophète unique. Mais les adorateurs d'idoles auront 450 prophètes. 1 contre 450. Et la bataille ne se déroulera pas en terrain neutre. Le mont Carmel était connu pour être un lieu d'adoration de l'idole Baal. En d'autres termes, cette bataille se déroulera en territoire ennemi. Élie se rend donc en territoire ennemi, et il est en infériorité numérique. Si vous deviez parier sur cette bataille, presque tout le monde miserait sur les prophètes de Baal.
21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit,
« Jusqu'à quand boiterez-vous entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit pas un mot.
Avant le grand affrontement, Élie va voir le peuple, les Israélites, et leur pose une question. « Combien de temps va-t-on continuer à aller et venir entre Dieu et Baal ?»
Parfois, en lisant cette histoire, nous pensons qu'Israël a abandonné Dieu et qu'il n'adore que Baal. Que Baal était la seule chose qu'ils avaient dans leur assiette. Mais ce n'est pas ce qui se passait. Ils allaient à Dieu pour certaines choses, puis à Baal pour d'autres. Dieu et Baal étaient tous deux dans leurs assiettes. Ils mélangeaient les systèmes de croyances. Comme l'a dit Élie, ils allaient et venaient de Dieu à Baal. Baal et Dieu, ils allaient et venaient de l'un à l'autre. Mais Élie a dit, « Ce n'est pas possible. Cela m'amène à mon deuxième point. 2. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. »
Ce point est tiré du livre de Josué. Il faut choisir. Il faut prendre une décision.
Vous ne pouvez pas continuer à mélanger Dieu et Baal. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le.
Plus de mélange. Plus de mélange. Un peu de Dieu et un peu de Baal.
Il faut choisir. Mais le verset 21 dit que le peuple est resté silencieux.
Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, et que quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle.
Et nous partageons cette bonne nouvelle avec tous ceux que nous rencontrons. Mais ne vous méprenez pas. Notre Dieu est un Dieu exclusif. Il ne donnera pas sa gloire à un autre.
Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il n'a pas dit que vous pouviez mettre un peu de moi dans votre assiette avec d'autres choses. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Le salut ne se trouve en personne d'autre.
Il peut être facile de juger les Israélites et de se demander à quoi ils pensaient.
Pourquoi ont-ils joué avec Baal? Pourquoi n'ont-ils pas servi Dieu seul?
Mais permettez-moi de vous poser la question suivante. Quel est le contenu de votre assiette aujourd'hui? Il pourrait s'agir d'autres religions.
Peut-être venez-vous à Jésus quand vous avez besoin de guérison, mais vous allez à d'autres religions pour d'autres choses. Élie dit, vous ne pouvez pas continuer à aller de l'un à l'autre et de l'un à l'autre. Si le Seigneur est Dieu, ne suivez que lui.
Mais parfois, nos idoles ne sont pas si évidentes. La tentation d'adorer Baal ou un veau d'or n'existe peut-être pas aujourd'hui. Mais une idole est tout ce qui captive notre cœur plus que le Dieu vivant, même les bonnes choses.
Le travail est donc une bonne chose, mais il peut devenir une idole lorsque vous trouvez votre identité dans votre travail, lorsque votre carrière devient le principal moteur de votre vie, lorsque vous sacrifiez la dévotion à Dieu pour le travail.
L'argent peut être une bonne chose, mais il peut devenir une idole lorsque vous ne pensez qu'à lui.
Il peut devenir une idole lorsque les choses que vous possédez commencent à vous posséder.
Le matérialisme, l'idée que plus de possessions vous rendra heureux, est une fausse idole dans notre culture d'aujourd'hui que beaucoup de gens adorent.
Le divertissement peut être une bonne chose,
mais il peut devenir une idole si vous passez tout votre temps assis devant un écran. Si vous êtes constamment distrait par votre téléphone, au point de ne pas pouvoir vous arrêter et passer du temps avec le Seigneur, c'est que quelque chose ne va pas.
Être à l'aise n'est pas une mauvaise chose,
mais lorsque le confort est le but principal de votre vie, au lieu de chercher le Seigneur et de lui faire confiance, alors quelque chose ne va pas.
Le plaisir n'est pas une mauvaise chose,
mais il devient une idole lorsque nous recherchons le plaisir dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur.
Je pense que vous avez compris.
Dieu ne veut pas que tu aies d'autres dieux ou idoles que lui. Lui seul peut satisfaire ton âme. Toutes ces autres idoles sont vides. Elles vous décevront, comme nous le verrons dans les prochains versets.
22 Élie dit au peuple, « Il ne reste que moi comme prophète du Seigneur. Mais les prophètes de Baal sont 450 hommes. » 23 On nous donnera deux taureaux. Ils en choisiront un pour eux, le découperont en morceaux et l'étendront sur le bois. Mais ils n'y mettront pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le poserai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. 24. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien dit. Élie propose les conditions du concours. Élie obtiendra un taureau pour le sacrifice, et les adorateurs de Baal obtiendront un taureau pour le sacrifice. Les prophètes de Baal prieront et demanderont du feu à leur Dieu, et Élie priera Dieu et demandera du feu. Celui qui envoie le feu, c'est le vrai Dieu. Et le peuple est d'accord.
25. Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez un taureau et préparez-le d'abord, car vous êtes nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » 26. Ils prirent le taureau qu'on leur avait donné, le préparèrent et invoquèrent le nom de Baal, du matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y avait pas de voix, et personne ne répondait. Ils boitaient autour de l'autel qu'ils avaient fait.
Les prophètes de Baal commencent. Ils invoquent Baal pour obtenir du feu,
mais ils n'obtiennent que le silence.
Rien ne se passe, aucune réponse.
Ils continuent donc à invoquer Baal pendant des heures et des heures. Ils continuent d'appeler, mais personne ne répond.
À midi, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez à haute voix, car c'est un dieu.
Ou bien il rêve, ou bien il se soulage, ou bien il est en voyage, ou bien il dort et il faut le réveiller.
Ou bien il réfléchit, ou bien il se soulage, ou bien il est en voyage, ou bien il dort et il faut le réveiller. »
Je dois admettre que c'est l'une des parties de l'histoire que je préfère.
Élie se met à parler mal. Il devient sarcastique avec eux.
Il se moque d'eux en disant, « Peut-être que vous ne parlez pas assez fort. Peut-être que Baal dort. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il est dans la salle de bain. »
Élie fait comprendre à Israël qu'il est insensé d'adorer Baal. Élie dit, « Criez plus fort. » 28. Ils poussèrent de grands cris et se tailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang jaillisse sur eux. 29. Comme midi passait, ils discutèrent jusqu'à l'heure de l'offrande.
Mais il n'y avait pas de voix.
Personne ne répondait. Personne ne faisait attention.
Les prophètes crient plus fort et vont même jusqu'à se mutiler.
comme cela se faisait dans d'autres religions à cette époque. Mais là encore, personne ne répond. Pas de voix. Il est dit que personne n'a prêté attention. Leur soi-disant Dieu était introuvable. Leur idole ne s'est pas montrée. C'est maintenant au tour d'Élie.
30. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé.
31. Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera votre nom. »
32. Et avec ces pierres, il bâtit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, qui pouvait contenir 2 séchoirs de semences.
33. Il rangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-en sur l'holocauste, et sur le bois. »
34. Fois il dit, « Faites-le une seconde fois. »
Et ils le firent une seconde fois.
Il dit, « Faites-le une troisième fois. »
Ils le firent une troisième fois.
35. L'eau coula autour de l'autel, et remplit aussi le fossé d'eau.
Élie prépare son autel pour le concours. Il prend 12 pierres pour représenter Israël et les place sur l'autel. Cela est important car, à cette époque, la nation d'Israël est un royaume divisé. Il y avait 10 tribus dans le royaume du nord, et 2 tribus, Juda et Benjamin, dans le royaume du sud. Tout cela se passe dans le nord, mais nous voyons le désir de Dieu qu'Israël soit uni.
Élie prépare donc l'autel, mais il va intentionnellement rendre les choses plus difficiles. N'oubliez pas qu'il va demander à Dieu d'allumer le feu, mais il leur dit de verser de l'eau sur l'autel. Puis il leur dit de recommencer. Puis il dit de le faire à nouveau. Il semble qu'il rende la tâche plus difficile.
Au moment de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. »
37. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu as retourné son cœur. C'est au tour d'Élie d'invoquer son Dieu. Il lui adresse cette prière simple et courte.
Quel contraste avec les prières à Baal. Les prophètes de Baal criaient fort.
Ils couraient partout. Ils se coupaient. Ils pensaient que plus ils étaient bruyants, plus ils étaient actifs, plus leur Dieu les entendrait. C'est encore le cas dans d'autres religions aujourd'hui.
Mais Élijah ne court pas partout. Il ne crie pas. Il ne se coupe pas. Il s'approche sincèrement du Seigneur et lui adresse une prière douce et simple.
Lorsqu'il enseignait la prière, Jésus disait, « N'accumulez pas de vaines paroles comme le font les païens, qui s'imaginent qu'ils seront écoutés à cause de leurs nombreux discours. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Tu n'as pas besoin de lui crier dessus, ni de prier une sorte de formule pendant des heures et des heures. Il est ton bon Père. Il t'entend, alors tu n'as pas besoin de lui crier dessus. »
Élie prie et dit, « Dieu, montre à ces gens que tu es le vrai Dieu, afin que leur cœur revienne à toi. »
38. Le feu du Seigneur tombe, consume l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et lèche l'eau qui était dans le fossé.
39. Tout le peuple, voyant cela, tombe sur sa face et dit, « Le Seigneur, c'est Dieu, le Seigneur, c'est Dieu. »
Le feu vient et consume l'offrande. De plus, le feu absorbe toute l'eau. Enfin, les yeux du peuple s'ouvrent.
Ils se rendent compte de la vanité du culte rendu à Baal. Enfin, ils ont déclaré, « Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. »
Tous les autres dieux sont des œuvres de l'homme. Mais toi, tu es le Dieu très haut. Il n'y en a pas de semblable à toi.
Seigneur Jésus, tu es le très haut.
Tu es le Dieu très haut.
Mon Sauveur, tu es le très haut.
Tu es le Dieu le plus élevé.
Car tu es bon, et ta miséricorde est éternelle. Alléluia.
Tu es bon et ta miséricorde est éternelle. Alléluia.
40. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, et qu'aucun bœuf ne s'échappe.
Et ils les saisirent.
Élie les fit descendre au torrent de Kizon, et là, il les égorgea.
Ce verset peut nous sembler extrême aujourd'hui,
mais Dieu les avait prévenus. Dans le livre du Deutéronome, de l'Ancien Testament,
au chapitre 13 et 17, Dieu avait averti Israël que tout prophète qui essaierait de détourner le peuple de Dieu, qui essaierait d'amener Israël à adorer quelqu'un d'autre, devrait être purgé. Et Élie a obéi au Seigneur.
41. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car on entend le bruit de la pluie qui tombe. » Nous oublions un peu que le problème principal était la pluie et non le feu. Quel était donc l'intérêt du concours de feu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé la pluie? Les prophètes de Baal auraient pu essayer de s'attribuer le mérite de la pluie. Après tout, Baal était censé être le dieu de la pluie, mais après le concours de feu, il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de celui qui envoyait la pluie.
42. Achab monta pour manger et pour boire. Élie monta sur le sommet du Carmel. Il se prosterna à terre et mit son visage entre ses genoux. 43. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Va encore, 7 fois. » 44. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage, semblable à une main d'homme, qui s'élève de la mer. » Et il dit, « Monte et dis à Achab, « Prépare ton char et descends, de peur que la pluie ne t'arrête. » 45. Au bout de peu de temps, les cieux s'obscurcirent de nuages et de vent, et il y eut une grande pluie. Achab monta à cheval et se rendit à Jizréel. 46. La main du Seigneur fut sur Élie, qui ramassa son vêtement et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Dieu a été fidèle à sa parole. Il a envoyé la pluie, comme il l'avait promis. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Que le roi Achab et Israël ont servi Dieu fidèlement et qu'ils ont vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Mais le roi Achab a continué à être désobéissant. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'Israël se détourne à nouveau de Dieu et se tourne vers d'autres idoles. Cela m'amène à mon dernier point. 3. Les moments sont bons, mais les moments ne durent pas.
Le concours de tir a été un grand moment. Mais pour certaines personnes ce jour-là, c'est tout ce qu'il a été, un grand moment. Sur le moment, ils ont été émus. Sur le moment, ils ont été convaincus. Sur le moment, ils ont adoré le Seigneur. Mais c'est tout ce que c'était, un grand moment, une grande expérience. Ils n'ont pas suivi le Seigneur, alors qu'Élie les y encourageait.
Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous passez un bon moment, que vous appréciez le culte, que vous aimez écouter la Bible, que vous appréciez le café du dimanche après. C'est formidable. J'en suis heureux. Louons Dieu. Mais ne vous contentez pas d'un bon moment. Car les moments passent.
Au contraire, suivez le Seigneur. Suivre Jésus est une activité quotidienne. Il est le bon berger. Nous entendons sa voix et nous le suivons. Nous ne le mettons pas dans notre assiette uniquement lorsque nous avons besoin de pluie ou de feu. Non, nous avons besoin de lui en permanence. Il est le seul à pouvoir satisfaire votre âme. Tous les autres dieux et idoles sont des œuvres d'hommes. Mais lui, c'est le Dieu très haut, et il n'y a rien de semblable à lui.